France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Deux personnes, dont un mineur, ont été interpellées après les violences urbaines de samedi soir à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Les policiers avaient été pris à partie, deux d'entre eux ont été légèrement blessés. Un bureau d'information jeunesse a été vandalisé dans la commune, ainsi qu'un chapiteau de cirque, centre d'art à vocation sociale. La maire d'Hiver Droite, Catherine Arnoux, se dit écœurée. Elle assure que le bâtiment culturel sera reconstruit. Quelques 600 gilets jaunes se sont réunis tout ce week-end à Montpellier pour une assemblée générale, presque un an après le début de leur mobilisation. Et ces gilets jaunes ont voté à une large majorité et à main levée pour rejoindre la grève du 5 décembre prochain contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron s'apprête à effectuer sa deuxième visite d'État en Chine, visite officielle de 3 jours à Pékin et à Shanghai. Le président sera accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise. Il souhaite encourager les autorités chinoises à ouvrir leur marché aux importations et aux investissements. Le premier déficit de la France étant avec la Chine. Le corps du militaire Ronan Pointeau sera rapatrié en France aujourd'hui. Le brigadier de 24 ans a été tué samedi par un engin explosif au nord-est du Mali. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Un hommage doit avoir lieu à Paris dans les prochains jours, ainsi qu'une cérémonie à Valence dans la caserne de garnison du régiment. En Irak, des syndicats d'enseignants, d'ingénieurs, de médecins et d'avocats ont entamé hier une grève générale. Les écoles et de nombreuses institutions publiques restent donc fermées, à Bagdad notamment. Les manifestants réclament toujours la chute du régime. Ils manifestent depuis un mois déjà. 257 personnes ont été tuées depuis le début de ce mouvement. Notons enfin ces affrontements à Hong Kong. Hier encore, entre les forces de l'ordre et les manifestants, 5 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau, dont un responsable politique local qui milite pour la démocratie dans la mégalopole.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Si nous étions projetés à la préhistoire, combien de temps notre corps contemporain résisterait-il aux maladies de l'époque ? Elle nous présente son visage toutes les nuits, mais que recèle son autre côté, la mystérieuse face cachée de la Lune ? Créer de petits organes comme des mini-cerveaux en laboratoire, certes, mais jusqu'à quelle limite éthique et comment endiguer les maladies nosocomiales à l'hôpital ? Parce qu'il n'y a pas une seule question à laquelle les sciences n'ont pas essayé de répondre, nous nous les poserons toutes méthodiquement.
La méthode scientifique, cette semaine à 16h et sur franceculture.fr, en partenariat avec Science et Avenir.
France Culture présente le spectacle Les Mille et Une Nuits. Les Mille et Une Nuits, ou comment le pouvoir de la fiction est capable d'arrêter la barbarie. La subtile Scheherazade a plus d'un conte dans son sac. Mais si elle cesse de séduire, elle périra. Guillaume Vincent poursuit son exploration de l'univers des contes, mêlant habilement humour, cruauté et sensualité. Les Mille et Une Nuits, du 8 novembre au 8 décembre, à l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel ou à nous écouter en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Il fait noir dehors, on est passé à l'heure d'hiver et comme tous les lundis, littérature. Et aujourd'hui, je reçois Léonora Miano pour Rouge Impératrice. C'est édité chez Grasset. Cette émission est préparée avec Corinne Amar, réalisée par Christine Robert avec, à la prise de son ce matin, Alain Joubert.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
C'est une histoire d'amour et une fable politique. Votre dernier roman, Léonora Miano, a pour titre « Rouge impératrice ». Et ce « Rouge impératrice », déjà le titre est assez intrigant, mais alors, dès qu'on l'ouvre, dès qu'on est transporté au 22e siècle, du coup.
Exact.
Bah voilà, nous sommes en 2124, dans une Afrique unifiée, ou presque, appelée Catiopa, un continent qui règne sur le monde.
Pas du tout.
Une puissance... Enfin, tout de suite.
Non, mais attends. Il essaie déjà de régner sur lui-même.
Oui, sur lui-même, mais c'est-à-dire c'est enfin une puissance, c'est enfin les États fédérés d'Afrique.
Enfin, comme vous dites.
C'est un rêve que vous avez depuis quelque temps.
Ah, moi je l'ai depuis toujours.
Et de livre en livre, ce rêve des États fédérés d'Afrique.
Exact. Pas facile à réaliser, mais on peut déjà commencer par la fiction.
Voilà, donc où tout est prospère, une Afrique qui ne dépend plus que d'elle-même, respectueuse de la diversité culturelle des Africains, et donc des cultures africaines, et qui peut allier technologie et écologie. Et cependant, il y a un problème, et ce problème vient d'une minorité, ces descendants de migrants français qui continuent à vivre comme jadis dans leur bled de la vieille Europe, ces fulassés qui ne veulent pas s'intégrer, oublier leur folklore désuet. Ah voilà, on les nomme d'ailleurs les sinistrés.
On les nomme les sinistrés parce qu'ils ont quitté leur pays à l'occasion de ce qui était pour eux un sinistre. Ils ont quitté leur pays à notre époque alors qu'ils se sentaient envahis par les Noirs et les Arabes. Mmh. Je ne surprends personne. Et une petite minorité d'entre eux a donc décidé, puisqu'elle ne voulait pas apprendre les langues étrangères comme ceux qui émigrent vers la Hongrie et la Bulgarie, a décidé d'être pragmatique et d'aller en Afrique subsaharienne francophone.
Où ils sont respectés, ils étaient respectés.
Voilà, là où elle pourrait faire ce qu'elle voulait, sauf que dans 100 ans, sa descendance n'a plus du tout la même, elle ne vit plus du tout dans les mêmes conditions.
Bon, voilà. on l'a compris, le principe. Hein. c'est décaler le regard pour mieux voir le présent, inverser les situations. C'est comme, d'ailleurs, quand on change le sens d'une carte géographique, quand on met l'Afrique en haut, l'Europe en bas, on se dit oui, on pourrait voir les choses de cette manière.
Et on devrait pouvoir.
Ouais, c'est une manière pour vous, Léonora Miano, de parler de la situation du monde aujourd'hui et des relations complexes entre l'Europe et ses anciennes colonies.
Oui, bien sûr, et en particulier la France et ses anciennes colonies, puisque c'est en Europe, à ce pays-ci, que je suis particulièrement attachée, et donc ce qui s'y passe me préoccupe. Moi, j'ai un enfant, une fille qui est française, et voilà, et qui appartient donc à ces minorités qu'on dit aujourd'hui un petit peu dérangeantes, non assimilées, tout ça, tout ça. Et donc, oui, le sort de ce pays me concerne et ça me touche, ça me préoccupe de voir toutes ces crispations identitaires, problèmes de rejet de l'autre qui sont à l'œuvre en ce moment et qu'on ne semble pas arriver à résoudre. Alors pour plein de raisons, mais moi je suis arrivée en 1991 dans une France qui était très différente.
Du Cameroun.
Voilà, du Cameroun, et il semblait quand même que nous nous acheminions vers un autre futur. Moi, je suis arrivée dans la France de FFF, Marco Prince, la France de NTM, la France de Alliance Ethnique, Dis Bonjour à la Dame. Je pense qu'on a même oublié un peu tous ces groupes. Mais pour moi, qui suis férue de musique, ces groupes dessinaient un futur très mélangé. Et donc voilà, il s'est passé quelques événements, bien sûr, quelques événements se sont produits dans le pays, mais aujourd'hui, il nous semble que on va avoir du mal à se rejoindre et que la France va devenir un peu comme aux États-Unis ou en Angleterre, des petites communautés imperméables les unes aux autres, ne se rencontrant que dans l'espace professionnel peut-être, mais ne partageant plus leurs intimités comme ce fut le cas autrefois. Je regretterais qu'il en soit
comme
ainsi.
Comme ce fut le cas autrefois ou comme on a l'impression que ce fut le cas autrefois?
Je pense qu'il y a des générations qui l'ont quand même vécu. Mmh. Même si ça n'a pas été, et je crois là jamais pour le coup, évidemment, un phénomène majoritaire, ça semblait tout de même, les choses semblaient plus possibles et plus fluides. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et surtout demain, si nous n'y prenons garde, ça risque d'être très compliqué.
Alors ça, c'est au centre de votre réflexion, de cette fable politique. Vous avez l'intelligence, Léonora Miano, effectivement, de tirer cette fable politique plutôt vers une histoire d'ordre philosophique. Je m'explique, parce que le fait d'inverser les rôles entre les dominants et les dominés d'aujourd'hui dans un récit d'anticipation ne vous empêche surtout pas de vous poser la question « Et si nous, les dominés, nous étions à la place des dominants, est-ce qu'on aurait fait mieux ?» Et c'est là où ça devient passionnant.
C'est une vraie question et je suis pas toujours sûre de ça. Parce que les crispations identitaires dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas l'apanage de l'Europe. Si on regarde un peu la planète entière, on s'aperçoit que les mêmes phénomènes sont à l'œuvre partout, que toutes les sociétés sont travaillées par ça. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir, comment nommer ça, une espèce de fascisme bouddhiste avant de tomber sur ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas, et comment est-ce que là aussi la religion peut être instrumentalisée pour discriminer des gens. Je pensais pas que le bouddhisme puisse faire ça, mais ce sont les mêmes êtres humains que les autres au fond, et donc ils sont travaillés par les mêmes peurs, et ce sont toujours les mêmes motifs qu'on donne, et en réalité les mêmes motivation derrière les actes. Donc c'est pas du tout des questions spécifiques à l'Europe. Nous en parlons beaucoup ici parce que nous y sommes, mais c'est finalement un peu partout pareil. Et les Africains subsahariens aussi ont leur sein des groupes qui sont mus par ces tentations de pureté identitaire, de refus du mélange. Oui, ça existe aussi, et il n'est pas dit du tout que si de telles personnes avaient le pouvoir demain, il n'est pas dit du tout qu'elles soient accueillantes et généreuses.
L'idée, c'est quand même de dire que les opprimés d'aujourd'hui peuvent devenir les oppresseurs de demain.
Mais il y en a des exemples nombreux dans l'histoire, malheureusement. C'est que souvent, on veut évidemment se garder de revivre un choc auquel on a été confronté, une blessure qui nous a été infligée. Mais se gardant de revivre cela, souvent on l'inflige à d'autres, parce que il y a en nous une nuit qui fait que l'humain veut se venger du mal qu'il a subi.
C'est une fable politique, Rouge Impératrice, mais pas seulement, c'est aussi un récit d'anticipation, elle l'a dit, une saga féministe, parce que vous donnez aux fables les meilleurs rôles.
Je suis une fille.
600 pages, tout à la gloire des femmes qui font et défendent tout.
On peut pas dire ça.
Mais c'est d'abord un roman d'amour, et alors vous le faites dans le genre populaire, c'est-à-dire
totalement.
C'est assumé, magnifié, amour, totalement. Passion, suspense, comme dans un soap.
Oui, je voulais m'écrire un soap. En fait, au départ, Rouge Impératrice, ça devait être un feel-good novel pour les pré-quinquas comme moi, que l'amour n'a pas encore trouvé.
Mais comme vous écrivez bien, eh ben, tant pis, c'est devenu de la littérature. Mais
j'assume complètement d'avoir créé des personnages un peu idéaux. On n'a pas l'habitude de voir ça. Déjà que l'Afrique incarne la puissance, mais encore moins l'amour, et encore moins ce grand amour presque parfait. Dans les contes de fées, ben, les personnages n'ont jamais nos traits. Il serait temps. Mais il serait temps aussi qu'ils ne soient plus des adolescents et qu'ils puissent avoir presque 50 ans et qu'ils s'éclatent un peu. Voilà.
Mais alors justement, pour avoir une idée de comment vous magnifiez ce genre roman d'amour populaire tout en le mélangeant à la fable politique, Léonora Miano, pour avoir votre souffle, pour entendre votre style, je vais vous demander de lire deux petits extraits de votre dernier roman, Rouge Impératrice.
Alors que le Catiopa unifié remettait de l'ordre dans la psyché criblée d'horreur des habitants de cette partie du monde, alors que l'on s'attelait à guérir leur âme blessée, les sinistrés ne pouvaient être tolérés. Il était indispensable que la rénovation se déroule en famille. Ce qu'il avait entendu confortait sa méfiance. Catiopa ne pouvait se permettre de tendre l'autre joue, d'accueillir, d'absorber, de se laisser une fois de plus détourner de sa voix véritable. De plus, Igazi, qui ne vivait que pour cette défense militaire ayant autrefois fait défaut au continent, avait à l'esprit une donnée majeure. Depuis quelques années, Pongo vivait sur ses réserves de ressources minières. Elles n'étaient pas éternelles, et certaines se trouvaient uniquement sur le continent. Ériger cette nouvelle demeure, c'était donc aussi préparer la guerre, car l'ennemi aurait bientôt besoin de se ravitailler en matériaux vitaux. On refuserait de les lui vendre. Alors, il attaquerait, mû par la nécessité toute naturelle de se maintenir en vie. La nuit offrait encore quiétude et discrétion. La femme devait néanmoins se hâter, regagner ses quartiers avant l'aurore. Sans rien laisser paraître de son inquiétude, elle souhaitait que cette réunion prenne fin. Mais l'heure était grave, et le sujet débattu ne pouvait être survolé. Une inconnue était entrée dans la vie du Mokonzi, dont la raison, peu à peu, s'était mise à vaciller. Le nom de cette créature n'était jamais prononcé au sein du cercle. On ne l'appelait que la Rouge ou l'Impératrice. L'ironie, cependant, n'émoussait pas les préoccupations. Qui dominait l'âme du Mokonzi commanderait un jour à l'État. Non seulement avait-elle ravi le cœur et la tête de l'un des plus implacables combattants qu'il se soit illustré sur le continent depuis des temps immémoriaux, mais elle l'incitait par-dessus le marché à une imprudente mansuétude à l'égard des exilés du pays Foulassi.
Je suis africain, africain du nord au sud. Je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Leonora Miano, qui pose d'ailleurs en filigrane la question, c'est quoi être africain dans Rouge Impératrice?
Ah, vaste question. En général, on n'aime pas ma réponse à cette question.
Alors, eh ben, tant pis, on va déranger les bonnes consciences.
Être africain, et je voudrais surtout le dire... au fanat de pureté identitaire qu'on a parfois sur le continent et même dans la diaspora, ben, être africain, c'est venir de ce continent et se reconnaître une filiation avec l'Europe, puisque nous avons la particularité d'avoir des ancêtres qui ne se disaient pas africains. Donc tu te dis africain à partir du moment où tu as été nommé comme ça. Et par qui? Et par qui as-tu été nommé?
Eh oui, c'est ça.
Et à quelqu'un qui a donné ce nom à ton continent, et c'était pas toi, et c'était pas tes ancêtres. Même après la colonisation, dans les villages, dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne, et même peut-être du Nord, il y a des gens qui sont morts sans savoir qu'ils avaient été affublés de cette nouvelle identité, sans savoir qu'on disait d'eux qu'ils étaient des Noirs, parce que ces définitions-là ne participaient pas du tout de leur vision du monde. Donc, Afrique et Africain, et même Noir, c'est des mots qui disent que d'autres, on a rencontré d'autres personnes et que notre univers de référence en a été transformé et que nos identités ont muté. Donc quand tu te dis africain, tu reconnais que t'as un papa qui est aussi Europe. Voilà.
On sait pas qui est son papa vraiment, votre héroïne, Boya.
Non, on sait pas bien. Mais peut-être qu'on va savoir un jour.
Ah, donc Rouge Impératrice n'est que le début d'une véritable saga, du coup.
Ah, mais moi, je voulais m'écrire la série que j'en ai marre de ne pas voir à la télé. Donc, ouais, il y aura une suite. Maintenant, je peux le dire.
Mais c'est une femme exceptionnelle. Elle est vraiment romanesque parce qu'elle est différente, parce que... D'ailleurs, vous dites que c'est une femme flamme à un certain moment.
Oui, c'est une femme flamme.
Bah oui, bah c'est bien résumé. Parce que c'est une intellectuelle qui n'a pas renoncé à la spiritualité aussi.
Non, qui n'a pas renoncé à la spiritualité, mais qui n'a pas renoncé non plus à la dimension charnelle de sa vie. Donc c'est un être total.
Mais surtout, cette universitaire militante est favorable à l'assimilation de ces bandes de sauvageons, comme on peut les appeler.
Eh oui, il faut quand même faire quelque chose pour eux aussi.
Elle n'est pas du genre à dire comme les autres, Catiopa, tu l'aimes ou tu la quittes.
Non, elle suggère ça, mais avec plus d'intelligence que quand on nous l'a dit ici.
Voilà.
Ou c'est pas un pays où on peut le dire. Mais effectivement, elle est favorable à ce qu'on tende la main. Pour diverses raisons. La première qu'elle met en avant, c'est que voilà, il y a des gens qui sont nés là. D'ailleurs, tous même sont nés là. Tous ceux qui se revendiquent d'ailleurs de ce pays foulassi que leurs ancêtres ont quitté, même la plus âgée, Charlotte du Pluvinage, elle est arrivée dans le ventre de sa maman. Donc en fait, ces gens sont nés sur ce sol. Simplement, de leurs parents, ils ont hérité uniquement cette... identité malheureuse, pour paraphraser quelqu'un qu'on connaît sur cette chaîne. Voilà, c'est leur unique patrimoine, c'est leur manière de vivre et de regarder le monde. Et pourtant, en réalité, ils ne connaissent pas d'autre sol que ce sol africain, qu'éthiopien. Mais ils ont la tête ailleurs. Ils ont l'esprit dans une espèce de mythologie qui n'est pas la réalité. Ils rêvent à un âge d'or qu'ils ne vivront pas. Et ils ne font rien, d'ailleurs, pour connaître véritablement le pays perdu. Ce qu'ils veulent, c'est le réinventer là où ils sont. Et donc, on les pousse un peu, on va peut-être les pousser dans leur dernier retranchement, en leur demandant, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Est-ce que vous voulez faire partie de nous, quoi? Appartenir à notre présent et à nos lendemains? Mais Boya, voilà, cette rouge impératrice, elle pense beaucoup aux enfants, en fait, qui n'ont pas le choix et qui sont simplement embarqués comme ça dans les lubies de leurs aînés et qui, peut-être, si on leur offrait la possibilité, voudraient tout à fait autre chose, voudraient se mêler aux autres enfants, voudraient aller à l'école parce que là, du coup, ils n'y vont pas. Voilà,
Elle est progressiste, on peut le dire, elle est humaniste.
C'est quelqu'un de normal, quoi.
Et elle est amoureuse d'un homme politique qui a du pouvoir, mais qui, lui, est obligé de rendre des comptes.
Qui est obligé de rendre des comptes, mais qui a quand même aussi choisi, parce que c'est un homme exceptionnel et merveilleux, qui a choisi d'écouter la femme.
Oui, c'est l'amour. l'amour.
Oui, c'est un homme, c'est le prince charmant un peu classique. Il a tous les attributs de la masculinité presque conventionnelle, mais il a décidé. Voilà, il a du respect pour elle et sa parole lui importe, donc il l'écoute. Oui, et ça, c'est ça qui pose problème, c'est qu'il écoute la
femme. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné dans Rouge Impératrice, c'est que Boya, c'est que les femmes se retrouvent entre elles pour une initiation à la vie. Comme si il fallait préserver encore des endroits où les femmes se retrouveraient seules. Est-ce que c'est important pour vous, Léonora
Miano? Ça, c'est un truc à avoir beaucoup avec l'auteur, c'est que ces endroits-là m'ont manqué. Voilà, j'aurais aimé connaître ces initiations ancestrales que je fais perdurer jusqu'au 22e siècle.
Ouais.
Ouais, j'aurais beaucoup aimé faire ça, que des aînés s'emparent de mon hymen. Avant que ce soit un garçon.
Voilà. Alors ça vient de votre imaginaire ou c'est une légende
africaine?
Non,
je ne me serais pas permis. C'est pas une légende, c'était une pratique.
Une pratique
de la côte du Cameroun où effectivement c'était les aînés qui défloraient la jeune fille, les aînés femmes, pour qu'elles se souviennent que le corps des femmes appartient d'abord aux femmes. Voilà. Et ce rite était pratiqué pour les filles en même temps que la circoncision pour les garçons.
Et d'ailleurs, dans Rouge Impératrice, il n'est pas seulement nourri de quelques légendes africaines, mais il y a aussi des mots africains.
Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je remercie les Français qui se sont jetés sur ce livre, parce que je pensais qu'il serait pas lu justement à cause de ça. Je me suis fait tellement plaisir, mais il m'avait semblé que, voilà, si j'écrivais ce roman de l'Afrique souveraine sur tous les plans et aussi sur le plan épistémologique, cette Afrique en train de s'inventer, parce que c'est vraiment le défi qui est devant nous, c'est pas d'aller chercher dans le passé, mais c'est de nous inventer, il fallait que ça se voie dans l'esthétique du livre. Et comment faire sinon en distillant un petit peu un lexique subsaharien. Donc j'assume ça complètement en sachant que pour certains lecteurs, c'est un peu difficile.
Tous ces mots qui vous ont manqué aussi, Léonora Miano, parce que vous avez eu une éducation française, même en Afrique.
Ouais, moi, mes parents et même mes grands-parents ne m'ont parlé que le français. Et si je parle le douala, c'est parce que j'étais une vilaine fille qui écoutait aux portes et qui fréquentait pas les bonnes personnes.
Vous leur reprochez de vous avoir inculqué, sans doute pour votre bien, je suppose, qu'une culture française...
Non, je crois qu'ils n'y ont même pas réfléchi, puisque mes parents, lorsqu'ils ne voulaient pas que nous comprenions les conversations, mes sœurs et moi, se parlaient entre eux le douala, que ma mère le parlait à ses sœurs. Et... je ne leur en veux pas, parce que c'était quelque chose de
mais
très...
Mais quelle signification ils mettaient dans cette non... comment on appelle ça
Non-transmission.
Dans cette non-transmission.
Mais vraiment, je crois que cette petite bourgeoisie douala et même camerounaise de l'époque n'a pas réfléchi à ça. Parce qu'ils ont tous été élevés dans leur langue... voilà, dans les langues locales, les langues ancestrales, et ça les a pas empêchés de faire des études brillantes en français, en anglais, de maîtriser plusieurs langues étrangères, donc ils ne pouvaient pas nous dire à nous, on te parle le français pour que tu maîtrises, pour que tu le maîtrises aisément, non, ça. Donc, je pense que vraiment, ils n'y ont pas réfléchi et que ça leur est venu sur le tard. Moi, c'est en vieillissant que mon père a commencé de temps en temps à, spontanément me parler une langue qu'il ne m'avait pas transmise. Et donc, il y a là une absurdité qui parle de l'aliénation aussi de cette génération-là finalement colonisée. Ce sont des colonisés qui ont été voilà, embarqués dans les mutations de l'histoire sans trop les interroger, en tout cas sans les interroger toutes. Donc à la maison, chez nous, nous parlions le français. Nous avions une bibliothèque qui ne comprenait aucun auteur africain, ni antillais, ni afro-américain. Et c'est seulement en me l'entendant dire que mes parents s'en sont aperçus. C'est seulement en m'entendant dire que ça m'avait manqué et que j'ai eu la chance d'aller à l'école au Cameroun où on suivait un programme scolaire camerounais qui m'a mise en contact avec ces autres littératures. Autrement, j'en aurais été privée. Heureusement qu'à l'école, nous lisions les auteurs africains, antillais et même afro-américains.
Et de ce manque est née votre vocation, Léonora Miano. Vous écrivez pour rappeler tout ça. J'ai l'impression...
Non, mais je dirais pas ça.
Oui.
J'ai écrit au tout début parce que je voulais exprimer quelque chose qui n'était pas dissible en famille et que j'avais vraiment besoin de dire... j'ai été une petite fille sexuellement agressée très tôt et je ne savais pas comment le dire. Hein. Je voulais dire ça. Et écrire m'a, aidé à chercher une voie pour... Alors ça n'a pas marché du tout, j'ai fait chou blanc. Seulement en essayant ça, j'ai éprouvé un sentiment de sécurité, de liberté et de puissance que j'ai toujours voulu retrouver. Donc ma première motivation pour écrire, c'est celle-là.
Rouge Impératrice est votre 16e livre, Léonora Miano, et ce matin, vous étiez très à l'aise pour le parler de ce livre, de votre univers, le fait de ne plus être en lice pour le Goncourt qui sera remis aujourd'hui, ça vous rend plutôt souriante et détendue?
Bah, écoutez, moi quand j'ai proposé ce texte déjà à Olivier Nora, qui est mon merveilleux éditeur, et on en a parlé, je n'imaginais pas du tout pour ce roman l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Léonora Miano d'être passée ce matin.
Merci Toufik Hakem de cette invitation.
Rouge Impératrice, le livre que je vous conseille, c'est édité chez Grasset. Et même si ça fait 600 pages, ça se lit très très facilement. Merci Léonora, à bientôt.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent la nouvelle collection de livres pour enfants, Oli. Des histoires du soir réinventées par les plus grands auteurs.
Geneviève Brisac,
François Morel,
Delphine de Vigan,
Zep.
Un canard qui parle, un Père Noël écologique, le dernier voyage d'un poisson rouge, un lutin magique. Des contes aux univers singuliers, merveilleusement illustrés. Une histoire et... Une coédition France Inter, disponible en librairie.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Faut-il démonter entièrement ou partiellement les vieilles plateformes pétrolières en mer du Nord ? La Grande-Bretagne et l'Union européenne se déchirent à ce propos. Négociations dans l'impasse, nous vous expliquerons pourquoi dans un instant. Nous irons ensuite en Chine où Emmanuel Macron doit atterrir ce matin. Une visite de 3 jours pendant laquelle les objectifs économiques prendront le pas sur la question des droits de l'homme. En Espagne, la mobilisation s'annonce forte ce soir après la condamnation de 6 hommes pour abus sexuels plutôt que pour viol. La population s'indigne. Et puis dans ce journal, nous nous pencherons sur le changement du jour dans les cantines scolaires. Elles doivent proposer un repas végétarien au moins une fois par semaine en France. Que faire des plateformes pétrolières en fin de vie en mer du Nord ? Sujet délicat qui déclenche une vive colère de la part de l'Union européenne contre la Grande-Bretagne. En effet, la compagnie pétrolière Shell veut laisser sur place une partie de la structure de 4 de ces plateformes, à savoir les socles en béton et la structure métallique Sandy Dauphin.
Brent Alpha, Bravo, Charlie, Delta, ces 4 plateformes ont été construites il y a une quarantaine d'années dans le champ de pétrole historique de Brent au large de l'Écosse. La convention internationale qui protège la mer du Nord prévoit le démontage complet de ce type de structure en fin de vie. Mais Shell juge l'opération trop complexe et hasardeuse pour celle-là. Le gouvernement britannique s'apprêtait à lui octroyer une dérogation. D'où la colère de Greenpeace, Anna Johanna Arbogast de la branche allemande de l'association.
Nous avons fait un proteste dans la mer du Nord. Nous sommes y allés avec un de nos bateaux, le Rainbow Warrior. Nous avons été sur 2 plateformes. Nous avons mis des bannières en demandant Shell de ne pas polluer la mer du Nord et de ramener leurs déchets toxiques.
Ces plateformes renferment encore 11 000 tonnes d'hydrocarbures et de résidus d'après les estimations. L'attitude de Londres est également très critiquée par le gouvernement allemand, mais aussi par la Suède, la Belgique, les Pays-Bas. Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions énergétiques.
Les autorités britanniques ont indiqué qu'elles allaient réfléchir à nouveau, compte tenu un peu de la levée de bouclier, notamment du côté de l'Allemagne. Mais si les autorités britanniques confirmaient cette exemption pour 4 plateformes en mer du Nord, ce serait effectivement plutôt un précédent.
La décision finale est très attendue car elle pourrait faire jurisprudence en mer du Nord où des centaines de vieilles plateformes pétrolières vont devoir être démontées dans les 30 prochaines années.
Là, c'est une plateforme au large du Brésil qui est mise en cause, pointée du doigt alors qu'une marée noire s'étend depuis la fin du mois de juillet. En 3 mois, plus de 200 plages brésiliennes ont été souillées dans le nord-est du pays. Et le pire est à venir, voilà ce que déclarait cette nuit le président brésilien Jair Bolsonaro. Selon lui, tous les indices désignent le pétrolier grec Bubulina. Et après l'analyse de données satellitaires, les autorités brésiliennes avaient fait la même conclusion vendredi dernier. 2000 km de côte ont été touchés pour le moment, notamment la région d'Abrolhos, un sanctuaire pour les baleines à bosse et les coraux uniques au monde. La deuxième visite d'État en Chine pour Emmanuel Macron débute aujourd'hui. Le président se rend à Shanghai et à Pékin avec une délégation de chefs d'entreprise du CAC 40 et de PME. Une quarantaine de contrats seront annoncés à l'occasion de cette visite, mais Emmanuel Macron veut surtout encourager les autorités chinoises à ouvrir leur marché aux importations. Un jeu de séduction s'annonce, Dominique André.
Emmanuel Macron sera choyé comme un ami qui vient de loin, souligne un haut diplomate chinois. Ce soir, le chef de l'État participera au dîner de gala de la Foire internationale des importations, un événement créé par Xi Jinping pour ouvrir le marché chinois. Demain, Emmanuel Macron et son épouse dîneront avec le couple Xi à 4 dans un restaurant typiquement chinois au milieu des jardins du mandarin Yu. Bien traité, Emmanuel Macron le sera, mais les Chinois ne savent pas sur quel pied danser avec le chef de l'État français. On voudrait dégager plus de consensus dans notre partenariat, précise Zhu Jing, chargé des affaires européennes au ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine a compris que le président français allait désormais jouer la carte européenne pour peser. Il arrive à Shanghai avec une ministre allemande dans sa délégation et avec le commissaire commissaire européen Phil Hogan qui sera chargé du commerce à la fin de l'année. Avec un déficit commercial abyssal de 29 milliards d'euros, l'Élysée veut prendre au mot la Chine qui promet d'ouvrir son marché intérieur avec le soutien de Bruxelles qui, pour la première fois au printemps dernier, qualifiait la Chine de rivale systémique. Une nouvelle stratégie est en train de se dessiner, délicate, mais à un moment où la Chine cherche aussi à se rapprocher des Européens en pleine guerre géostratégique avec les États-Unis.
J'ajoute que sur les questions diplomatiques, Pékin a déjà prévenu le chef d'État français. Emmanuel Macron ne doit pas se mêler de l'agitation à Hong Kong, voilà ce que dit Pékin. Alors que des affrontements entre forces de l'ordre et militants pro-démocratie ont encore fait 5 blessés hier à Hong Kong. Le roi d'Espagne est attendu à Barcelone ce lundi et attendu de pied ferme, notamment par les indépendantistes. Ils n'ont pas oublié que Philippe VI, il y a 2 ans, avait été très ferme face aux manifestations et au référendum organisé en Catalogne. Face au risque de tension, Madrid a envoyé aujourd'hui 400 policiers anti-émeutes en Catalogne. Plusieurs organisations indépendantistes radicales ont appelé à des mobilisations. Autre rassemblement prévu ce lundi en Espagne, dans les grandes villes du pays. Des collectifs féministes appellent à se mobiliser contre un jugement rendu vendredi dernier dans l'affaire de la meute de Manresa. 6 jeunes hommes étaient accusés de viol collectif contre une jeune femme. La justice les a condamnés, oui, mais pour abus sexuel, Mathieu de Taillac.
C'est un hiatus entre la définition commune et le sens juridique qu'une bonne partie de la société espagnole ne supporte plus. Ce que les communs des mortels en Espagne appellent un viol, le code pénal le décrit parfois comme un abus sexuel. C'est bien ce qu'il s'est passé dans le jugement rendu jeudi dernier à Barcelone contre ce que les médias appellent la meute de Manresa. 6 jeunes jugés pour avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 14 ans qui avait bu et fumé du cannabis et était inconsciente. Cet état d'inconscience empêche les juges de constater ni violence ni intimidation de la part des accusés, une condition indispensable pour qualifier juridiquement un viol. Les condamnations sont tout de même lourdes, de 10 à 12 ans de prison ferme, mais le rejet du terme de viol est vécu par une bonne partie de la société comme une humiliation, une espèce de refus de reconnaître la gravité des faits. Ce n'est pas un abus, c'est un viol. Voilà ce que devraient scander des milliers de manifestants ce soir. Les collectifs féministes exigent la modification urgente du code pénal pour ce que l'ensemble des Espagnols considèrent comme un viol, autrement dit des relations sexuelles non consenties, soient définies par le même mot dans la loi et dans les salles d'audience.
C'était Mathieu de Taillac pour France Culture. Le chapiteau de l'Arche incendie à Chanteloup-les-Vignes samedi sera reconstruit. La ville des Yvelines le promet après une nuit d'émeute dans la nuit de samedi à dimanche. Une 30aine d'individus ont pris à partie des pompiers et des policiers. 2 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. 2 suspects ont été interpellés hier, dont un mineur de 17 ans. Ils sont en garde à vue. La Charente-Maritime est le seul département encore en vigilance orange pour risque d'inondation ce matin après un week-end de tempête sur la façade Atlantique et sur le sud-est. Hier soir, notons que 23 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Nous reviendrons sur la météo du jour dans un instant. Avant cela, sachez que des repas végétariens dans les cantines scolaires sont obligatoires à partir d'aujourd'hui, en ce début novembre, jour de rentrée. Les écoles, collèges, lycées, publics comme privés doivent mettre en place au moins une fois par semaine un choix de repas sans viande ni poisson. Cela s'inscrit dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation votée il y a un an. Et c'est une bonne chose pour Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l'Association végétarienne de France.
En fait, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout qu'on peut manger végétarien et être en bonne santé, et faire du sport, et bien réussir à l'école. Donc le fait de proposer un menu végétarien une fois par semaine, ça montre tout simplement que c'est possible, qu'on peut s'alimenter autrement. C'est à la fois une source de plaisir, une source d'équilibre. Ça permet aux enfants de s'initier à une autre cuisine. Et ça, on sait que quand les enfants rentrent à la maison, ils sont prescripteurs. Donc ensuite, ils en parlent à leurs parents, ils parlent de ce qu'ils ont mangé. Les parents ont aussi envie de préparer des repas différents. Donc on sait que tout ça a un effet vraiment positif. Après, c'est vrai que l'enjeu, bien sûr, c'est pas seulement de proposer ces repas, c'est aussi de faire toute une éducation autour de l'alimentation. L'alimentation, elle a une très forte dimension politique, notamment par son impact écologique sur le climat, mais aussi sur la biodiversité. On sait aujourd'hui que l'élevage, c'est une des principales menaces sur la biodiversité. On sait aujourd'hui qu'avec la pression démographique et puis les pressions qui sont liées au dérèglement climatique, ce sera difficile de nourrir toute la planète avec le modèle actuel. Donc, proposer une autre alimentation et proposer tout l'accompagnement éducatif qui va avec, c'est vraiment un dispositif très important pour l'avenir.
Des propos recueillis par Maïwenn Bordron qui avait fait un reportage vendredi dernier à propos des repas végétariens dans les cantines scolaires. Reportage à retrouver sur notre site internet franceculture.fr dans la rubrique hashtag. La perturbation pluvieuse de ce week-end se déplace vers le sud-est ce lundi, arrosant la quasi-totalité du pays, des Hauts-de-France à l'Occitanie en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes. De la neige est attendue aujourd'hui sur les Alpes, au-delà de 1600 mètres en matinée. Et comptez ce matin 12 degrés à Brest et à Besançon, 14 à Paris, 15 degrés à Bordeaux et Lyon, 20 degrés ce matin près de la Méditerranée. Il est 6h40, l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Mounier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Jacques, un collectif de 44 rescapés des attentats du 13 novembre 2015 a publié dans Le Parisien un appel en faveur des Kurdes attaqués par la Turquie.
Oui Clara, je cite, « En tant que survivants du terrorisme, il nous est impossible de rester silencieux et indifférents à l'attentat permanent que vivent ces populations envers lesquelles nous avons une dette inestimable. » Les signataires rappellent le rôle éminent joué par les Kurdes dans la lutte contre Daesh et en appellent à la conscience de chacun pour s'engager contre l'agression turque, ainsi qu'à tous les chefs d'État d'Europe et du monde qui en 2015 avaient dit ensemble « plus jamais ça », à prendre à nouveau ensemble leurs responsabilités face à l'histoire. Outre la menace imminente de voir revenir sur notre sol des djihadistes évadés des prisons kurdes suite à l'offensive turque, il souligne que le Rojava, seule tentative de démocratie sociale au milieu d'un océan de dictature, risque d'être anéanti. L'hebdomadaire Le 1 est consacré à cette douloureuse actualité. L'accord conclu entre Ankara et Moscou vient probablement sonner le glas des espoirs kurdes nés autour du territoire autonome du Rojava, au nord de la Syrie. Pour Hamit Bozarslan, l'objectif du président turc est d'en finir avec la présence kurde à sa frontière et de séparer par un large cordon sanitaire les Kurdes turcs et syriens. Ce président, je cite, vit sous l'emprise d'une violente nostalgie impériale où la Turquie est investie d'un double rôle, d'abord apporter au monde son sens de la justice et du bien, ensuite constituer le bras armé de l'islam. Dans sa vision paranoïaque de l'histoire, l'objectif de la Première Guerre mondiale visait à détruire l'Empire ottoman et les ennemis de la Turquie ne cessent de le poursuivre. Erdogan établit un lien entre espace et espèce. De ce point de vue, les Kurdes sont une menace stratégique existentielle pour l'avenir de la Turquie. Le directeur d'études à l'EHESS, spécialiste des questions proche-orientales, évoque les conséquences de l'opération militaire turque. L'expérience mise en place en Syrie dans la région du Rojava, le long de la frontière turque, où Kurdes et Arabes locaux ont instauré ensemble une forme de démocratie directe, est terminée. Ensuite, Poutine est définitivement le maître du jeu dans la région et peut désormais imposer plus facilement ses arbitrages à Erdogan et aussi à Bachar al-Assad. Et s'il parvient à amener les Kurdes à négocier un compromis avec Assad qui inclut une forme très partielle d'autonomie, Erdogan aura du mal à s'y opposer. Enfin, dernière conséquence, il peut y avoir des sanctions très dures du Congrès américain contre Erdogan qui pèseront lourdement sur une économie turque déjà en difficulté. Aucune culture ne peut exister sans un imaginaire commun. Celui des Kurdes est très puissant, souligne Hamit Bozarslan. Pour Moscou, les Kurdes présentent un intérêt non négligeable. Ils ont une armée constituée de 70 000 hommes et femmes entraînés. Écrivaine et photographe Sophie Mousset s'est rendue à plusieurs reprises en territoire kurde. Les guérillas, comme se nomment elles-mêmes les combattantes du YPG du Rojava, écrit-elle, tentent de transmettre des notions d'écologie et le sens de leur lutte par l'exemplarité de leur comportement. Dans l'histoire des guerres asymétriques, faire combattre les femmes, c'est surtout doubler les effectifs. Ce fut le cas en Espagne, en Érythrée, en Algérie, au Sri Lanka avec les tigres tamouls. Mais chez les Kurdes, il y a aussi la volonté des jeunes femmes de changer leur société. Les éditions des femmes publient les lettres de prison de Zehra Dogan. Nous aurons aussi de beaux jours. La journaliste et artiste kurde est l'une des fondatrices de la première agence d'information de femmes en Turquie, fermée par décret à la suite de la tentative de coup d'état de juillet 2016, et l'on se demande bien pourquoi. Le prétexte répétitif qu'il a condamné, propagande pour une organisation terroriste, s'appliquait-il à son reportage sur les femmes yézidis ayant échappé à Daesh ? Dans cette prison de Diyarbakir où on l'a privée des moyens de peindre, elle fait notamment le portrait des femmes qu'elle côtoie des ouvrières agricoles, des étudiantes, des édiles municipales, des mairesses. Une femme de 28 ans, mère de 2 enfants, condamnée à 3 ans et 4 mois simplement parce qu'elle avait porté une tenue de guérilla dans une fête. Certaines de ses co-détenues ne savent même pas pourquoi elles sont en prison, car leur réquisitoire n'a pas encore été prononcé. Il ne faut pas que les maires soient arrêtés, nous ferons de la prison à leur place, écrit-elle. Restent les étoiles scintillantes aperçues à travers les barreaux et grillages quand le ciel vient à manquer, comme si la vérité de l'univers envoyait des messages. Je cite, oui, l'histoire en vérité n'est pas seulement l'histoire écrite et n'est pas réduite à des événements d'une importance relative. L'histoire, c'est le présent, elle est le moment présent vécu par tout l'univers. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la puissance chinoise de l'imitation à l'innovation.
Oui, la Chine de l'innovation, ce n'est pas celle que visitera Emmanuel Macron ce lundi, qui sera l'invité d'honneur de la foire aux importations de Shanghai. Car Pékin veut montrer combien elle s'ouvre aux produits étrangers et notamment français, que ce soit le port breton ou les avions Airbus. Quand la Chine exporte, elle, c'est encore et surtout des matériaux à bas prix, des produits à faible valeur ajoutée locale. Pourtant, depuis la fin des années 70, elle s'est fixée pour objectif de passer du fabriqué en Chine au inventé en Chine. Et la stratégie commence à sérieusement fonctionner. Bonjour Alizée Pornet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste à l'AFD, l'Agence française de développement. Et vous avez signé dans la revue RIS, la revue internationale et stratégique qui est notre partenaire trimestriel, un article titré « Le rattrapage technologique comme outil de la puissance chinoise ». Alors Alizée Pornet, avant d'expliquer comment la Chine a progressivement misé sur l'innovation ou remisé, il faut quand même rappeler que la boussole et l'imprimerie c'est quand même elle, eh bien, il faut expliquer comment elle est d'abord devenue l'atelier du monde, non pas une puissance d'innovation, mais d'imitation.
Oui, tout à fait. Avant de parler d'innovation, il faut parler d'imitation dans le modèle chinois, sachant que cet enjeu était avant tout relevait d'une trajectoire de développement, puisque à la fin des années 70, la Chine décide de passer d'une économie planifiée à une économie socialiste de marché. Et ce passage, en quelque sorte, résulte de diverses réformes économiques successives, dont la plus connue est bien sûr la création des zones économiques spéciales, à partir de 1979 de Deng Xiaoping, et qui avait trois objectifs principaux. Le premier, c'était d'attirer dans ces espaces des investissements directs étrangers, les IDE. Le deuxième, c'était de créer des co-entreprises sino-étrangères.
Joint Venture, c'est ce qu'on appelle les joint ventures. Ouais.
Tout à fait, et qui seront très importantes, on y reviendra. Et le troisième aspect était bien sûr de permettre aux acteurs chinois, essentiellement industriels, productifs, de s'insérer dans les échanges commerciaux par notamment des situations de ces zones économiques spéciales sur les façades maritimes pour faciliter les transports.
Donc imiter, l'imitation, dites-vous, imiter quoi et pourquoi? Est-ce que ça relève de l'espionnage industriel ou c'était de façon tout à fait légale qu'on imitait en Chine?
Non, en fait il s'agit surtout d'une trajectoire de développement, c'est un enjeu de développement. C'est notamment des choses qu'on voit dans plein de pays encore actuellement. C'est ce qui se passe par exemple encore aujourd'hui en Algérie. Quand on parle de joint venture, on parle de 51-49, c'est-à-dire qu'en fait la part locale doit être majoritaire et l'investissement étranger est de 49%. En fait, ce 51-49 est un jargon pour dire surtout que lorsqu'il y a des co-entreprises, en fait, il y a des transferts de technologie, des transferts de savoir-faire et aussi des formations, en fait, des employés. Donc, c'est-à-dire que quand cette entreprise est créée, l'entreprise étrangère arrive avec son savoir-faire et elle va donc former des employés chinois, elle va assembler, en fait, et apporter des composants techniques qui vont permettre à la Chine d'améliorer ses processus.
Donc quand Donald Trump aujourd'hui reproche à la Chine ses transferts de technologie, en fait ce sont des choses qui sont faites de façon tout à fait légale et avec un intérêt aussi pour les entreprises, en l'occurrence américaines, qui s'installaient en Chine. Alors comment, au fur et à mesure, la Chine va progressivement arrêter de miser sur l'imitation et puis une production industrielle à très faible valeur ajoutée, l'assemblage avec ses avantages comparatifs liés à la main-d'œuvre disponible et bon marché, et comment va-t-elle se relancer dans l'innovation?
En fait, il y a deux mouvements qui sont parallèles, puisqu'en fait, la Chine poursuit encore une fois sa montée en gamme productive. Donc, les zones économiques spéciales vont peu à peu passer des façades maritimes vers l'ouest, avec des montées en gamme sur la production, donc des produits qui ont plus de valeur ajoutée, notamment dans l'électronique, dans les villes comme Chongqing ou Chengdu. À côté de ça, la Chine, dès les années 80, commence en fait à créer un écosystème des acteurs de l'innovation. Donc, elle va commencer à, par exemple, faire un appariement entre les filières universitaires et les besoins en termes de connaissances des entreprises. Ensuite, d'un point de vue politique et doctrinal, le terme innovation apparaît plutôt à la fin des années 90 et devient un objectif prioritaire avec le 10e plan quinquennal.
Et d'innovation indigène.
Tout à fait. C'est en fait ça, c'est le plan quinquennal qui arrive après, il me semble, qui en fait donc sous Hu Jintao développe un petit peu une doctrine d'innovation de la Chine et qui aujourd'hui se poursuit avec le Made in China 2025 de Xi Jinping, qui souhaite développer sur plusieurs secteurs l'innovation chinoise, sachant que l'objectif n'est pas tant 2025 que finalement 2049, à savoir le centenaire de la création de la République populaire de Chine.
Et donc vous dites, Alizée Pornet, que progressivement la Chine implique les universités dans le processus, avec une population progressivement plus qualifiée, des universités aussi qui commencent à apparaître dans les classements, les grands classements mondiaux, ce qui n'était pas le cas à présent, un pari misé sur la filière universitaire et faire en sorte que les cerveaux, comme on dit, ne fuient pas à l'étranger.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est assez intéressant de voir le balancement qu'il y a eu, puisque ces zones économiques spéciales et les réformes successives, je cite juste celle-ci, mais bien sûr, il y en a d'autres, ont permis aussi la circulation des étudiants qui étaient qualifiés dès lors et qui ont créé une diaspora scientifique chinoise très importante. Mmh. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises, par exemple, dans les panneaux solaires, ont été créées par justement ces étudiants qui étaient issus de la diaspora scientifique.
Les panneaux solaires que jusqu'à présent, la Chine fabriquait simplement, se contentait entre guillemets de fabriquer peut-être dans l'imitation.
Oui, tout à fait. C'est un exemple assez intéressant puisqu'en fait, la Chine a été productrice en termes d'assemblage des panneaux solaires pendant très longtemps. Elle a un peu à peu en fait remonté la filière, donc de l'aval, c'est-à-dire la production, vers l'amont, en fait l'innovation, où elle a cherché à trouver en fait l'innovation qu'elle pouvait breveter, à savoir un détail technique qui est la purification du silicium, qui permet un meilleur stockage en fait de l'énergie dans les panneaux solaires.
C'est une invention chinoise.
C'est en fait une invention qui était plutôt allemande, japonaise, et que la Chine a essayé de trouver.
Donc c'est pas une innovation qu'on dit de rupture, c'est une innovation qui améliore les procédés existants, et ça les économistes ne manquent pas de dire que peut-être c'est la limite.
Oui, tout à fait. En fait, dans l'économie de l'innovation, c'est très difficile de qualifier une innovation. Donc, il y a différents indicateurs qui permettent de le faire, et notamment les brevets. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents types de brevets. Il y a les brevets dits d'invention. En effet, là, on parle d'innovation de rupture. Et il y a les brevets plus d'utilité. C'est un terme chinois, d'ailleurs, qui est prôné en Chine, en tout cas. Et qui, là, essaie d'améliorer à la marge une technologie. Et en fait, on voit que si la Chine est aujourd'hui le premier dépositaire de brevets, si on regarde de plus près, en général, les brevets chinois qui sont d'invention concernent à peu près un tiers des dépôts, ce qui est assez peu. Et il y a aussi un autre indicateur qui est assez révélateur, c'est ce qu'on appelle les brevets triadiques, qui passent en fait trois bureaux successifs, donc Japon, États-Unis, Europe. Et là, la Chine, par exemple, en 2014, comptait que 2500 brevets triadiques, là où les États-Unis en avaient 14 000 et le Japon 17 000 en gros.
Et ça commence à se renverser ou pas? Non, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est un mouvement de long terme. C'est aussi ainsi qu'apparaissent progressivement des géants technologiques, notamment Huawei, dont on parle tant aujourd'hui. Et je voulais que vous nous disiez en quelques mots ce que vous me racontiez juste avant d'entrer dans ce studio. C'est votre dernier séjour à Pékin, où vous avez été surprise de la manière dont ces innovations sont déjà en train de bouleverser le quotidien des Chinois.
Oui, tout à fait. C'est vrai que, en fait, le paiement électronique maintenant est vraiment était déjà de toute façon très démocratisé, mais c'est vrai que maintenant, quand on va dans des villes comme Pékin, il devient de plus en plus difficile de payer en espèces, en fait, puisque c'est via soit l'application WeChat, donc de Tencent, soit via Alipay, donc les procédés de paiement Alibaba, que les transactions se font.
Et dans quelle mesure l'innovation chinoise repose aussi sur les données des clients, les données des utilisateurs? Je crois qu'il y a en Chine, enfin en tout cas en 2016, 710 millions d'utilisateurs Internet. Comment l'économie chinoise se nourrit de ces données-là, avec les problèmes politiques que ça pose, mais c'est le cas aussi aux États-Unis ou pour de toute façon tous les pays qui utilisent les GAFA, mais peut-être en Chine avec des problèmes particuliers dont il n'est pas question ce matin. Mais voilà, comment l'économie chinoise vit de ces données-là?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un autre type d'innovation. Donc, quand là, on parlait plutôt avec les brevets de l'innovation R&D, donc qui se rapproche de l'innovation fondamentale principalement. Quand on vient à l'économie numérique, on parle plus d'innovation incrémentale. C'est-à-dire que la matière première qui va permettre d'améliorer une technologie, un processus, vient de l'utilisation en fait et des remontées des utilisateurs. Donc, avec un marché en effet, comme vous le dites, de plus de 710 millions d'utilisateurs, la Chine a un avantage comparatif important comparé à d'autres entreprises numériques.
Ouais, et un débat sur la protection des données commence à émerger aussi en Chine. Enfin, d'ailleurs, il ne commence pas, ça fait déjà quelques temps qu'il existe. Pour conclure, Alizée Pornet, comment la Chine utilise cette nouvelle capacité d'innovation et les dépôts de brevets dont vous nous parliez au service de sa géopolitique? Quand on entend nouvelle route de la soie, on n'entend pas innovation, sauf peut-être à parler des nouvelles routes de la soie spatiales, par exemple.
En fait, c'est vrai que c'est un volet qui est un peu méconnu des routes de la soie, puisqu'on parle surtout d'infrastructures, alors que l'innovation dans le premier forum en 2017 et surtout le discours de Xi Jinping à cette époque mettait en avant l'innovation en parlant justement de l'historique de la Chine vis-à-vis de ces techniques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est plutôt le segment atelier qui est mis en avant dans les routes de la soie, ou alors le segment économie numérique, donc l'innovation incrémentale qu'on évoquait avant. Et par exemple, des acteurs comme Alibaba proposent de créer d'aider dans les pays des routes de la soie, notamment le Pakistan, la Turquie aussi, d'essayer de créer des plateformes d'incubateurs de start-up en lien avec les réseaux et l'utilisation des données et aussi les paiements facilités.
Et en attendant, dans les discours, la Chine continue à se présenter comme un pays en développement. Merci beaucoup Alizée Pornet d'avoir été avec nous. Merci. Ce matin, le rattrapage de la Chine comme outil de la puissance chinoise. Votre article est à lire dans la revue trimestrielle RIS, la revue internationale et stratégique de l'IRIS. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Tolkien, voyage en terre du milieu. Lorsqu'en 1937, Tolkien publie Le Hobbit, il est loin d'imaginer que l'ensemble de ses récits fera de lui l'une des figures littéraires les plus importantes du XXe siècle. Dévoilant à la fois l'homme et son œuvre, la plus grande exposition jamais réalisée sur le sujet réunit 300 pièces exceptionnelles, avec notamment de nombreux manuscrits et dessins originaux de l'auteur. Tolkien, voyage en terre du milieu, jusqu'au 16 février, à la BNF François Mitterrand, à Paris. Un partenariat France Culture et France Télévisions.
Lundi sur France Culture, le réveil sonne dès 7h avec Guillaume Erner. Ce lundi 4 novembre, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement et l'invité des matins de France Culture. À mi-mandat de la présidence Macron, un an après la crise des Gilets jaunes, à 4 mois des élections municipales, comment les Français jugent-ils l'action de l'exécutif? Quelles réformes? Pour quels résultats? Les matins de France Culture, 7h-9h, lundi 4 novembre, à retrouver sur franceculture.fr.
Et bienvenue sur France Culture. Bonne reprise si vous étiez en vacances. Et bonjour à vous, Guillaume Erner.
Bonjour, Julie Gacon. Bonjour à toutes et à tous.
6h57, c'est votre humeur du jour. Vous avez enquêté, Guillaume, une enquête au long cours et pleine d'embûches sur les parents délégués de classe.
Absolument, Julie. Ça a été compliqué. C'était une enquête approfondie menée sur un collège parisien où j'ai mes habitudes. Alors, j'ai reçu la liste des parents délégués de classe et celle-ci est pleine de trous. Je veux dire, dans beaucoup de classes, il n'y a qu'un seul parent délégué. Alors qu'il y a, je vous le rappelle, deux associations de parents d'élèves, peu de classes où il y a des suppléants. Or, si ma mémoire est bonne, quand j'étais petit, dans chaque classe, il y avait deux parents délégués dans des associations de parents d'élèves à la dimension partisane appuyée, même si certaines années, des parents héroïques de droite et de gauche présents se fixaient comme but difficile, mais pas inaccessible, le fait de pouvoir travailler de conserve. Désormais, il reste vaguement la gauche, dit vaguement, parce que c'est pas du tout ça qui s'entend dans les réunions de parents d'élèves et une association apolitique agissant à l'échelle locale. Des classes sans parents d'élèves, voilà qui résume assez bien l'époque, puisque ça contraste avec le surinvestissement scolaire qui est aujourd'hui la règle. Jamais tant de parents ne se sont autant inquiétés pour l'avenir scolaire de leur rejeton, mais cette inquiétude individuelle ne se traduit pas du tout sur le plan collectif. On s'angoisse chacun dans son coin et finalement, c'est le collectif qui a du mal à se déployer. La triste condition du parent d'élève esselé reflète finalement le désinvestissement du collectif, syndicat, parti politique. Toutes les fonctions de représentation sont en crise. Plus personne n'a envie de les endosser. Impossible de dire si cette crise de la représentation est la cause ou la conséquence de l'individualisme, mais elle s'observe désormais dans toutes les sphères de l'existence, y compris les plus investies comme l'école, l'entreprise, la vie de la cité. De plus en plus de parents d'élèves, de moins en moins de parents d'élèves délégués, comme s'il était devenu difficile, voire impossible, de parler pour plusieurs, d'être le représentant de quelqu'un d'autre que soi-même, comme si l'école, une fois de plus, récapitulait les malaises de la société.